La vigne, on la vendange, on l'élève, on la raconte. Mais on la branche aussi. Machines, capteurs, applications, solutions connectées. La high-tech s'invite partout dans les parcelles. Et si on prenait le contre-champ ? Technoterroir, c'est un podcast qui questionne notre dépendance aux machines dans la vigne. Un micro, des bottes, et l'envie de comprendre comment on s'adapte sans forcément tout automatiser. Je m'appelle Chloé Martin, je suis à la fois vigneronne et product manager. Je me pose plein de questions sur mon rapport à la terre et aux machines que j'utilise. Alors je vais aller rencontrer des personnes qui repensent la place de nos outils, qui se réapproprient les machines et interrogent leurs gestes. Je vous emmène dans ma poche. On part en balade ? Aujourd'hui, je rencontre Mathilde Zalecki, animatrice de développement local à l'Atelier Paysan. Elle est aussi responsable du site Grand Ouest, c'est-à-dire la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Elle connaît très bien les enjeux de l'alimentation paysanne, car elle était auparavant animatrice au réseau des AMAP d'Île-de-France. J'ai entendu parler d'elle pour la première fois lors d'une réunion de vigneronnes et de vignerons en Bretagne, près de Quimperlé. On était tous réunis sous un bosquet, et on parlait de nos besoins en labo, en matériel, quand une brochure de l'Atelier Paysan est apparue sur la table, avec des schémas d'outils viticoles, et là, j'ai fait un grand bond. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'Atelier Paysan, il s'agit d'une structure qui soutient et encourage l'autonomie technique sur les fermes, en accompagnant les agricultrices et agriculteurs dans la fabrication de machines lors de stages thématiques. Et ce qui est particulier, c'est que les plans des machines sont en licence libre ou Creative Commons. L'Atelier Paysan, c'est aussi le collectif à l'origine d'un manifeste intitulé « Reprendre la terre aux machines », qui dénonce le modèle agroalimentaire industriel et propose des pistes pour le futur de la communauté paysanne. Alors quand j'ai vu cette brochure et que j'étais en plein questionnement sur la low-tech dans la vigne, c'était devenu évident qu'il fallait que ce podcast démarre avec l'Atelier Paysan, car ce sont presque les seuls à proposer des machines en autoconstruction low-tech dédiées à l'agriculture. Voilà, donc c'est grâce à cette réunion sous les bosquets bretons que je pars aujourd'hui à Payac, près de Redon, pour aller retrouver Mathilde.
Donc moi, je suis Mathilde Zalecki, je suis donc aujourd'hui salariée de l'Atelier Paysan, plus spécifiquement de l'association Soudon Ferme, et on pourra en reparler plus tard. Donc en tant qu'animatrice Grand Ouest de l'Atelier Paysan et coordinatrice de l'essaimage à l'échelle nationale. Et donc moi, je suis à l'Atelier Paysan depuis un an, tout juste. Et avant ça, donc là maintenant je suis en Bretagne, avant ça j'étais en Île-de-France et pendant 6 ans j'étais animatrice au sein du réseau des AMAP d'Île-de-France. Voilà, j'étais en charge de l'accompagnement notamment des groupes de citoyens, les aider à constituer des groupes AMAP, à réfléchir au cadre éthique dans lequel on met en place les relations qui entourent à la fois les citoyens, les mangeurs, comme on peut dire, les AMAPiens, et les paysans et paysannes qui produisent pour ces personnes-là. Et puis je faisais aussi des formations, j'accompagnais aussi un peu les fermes dans les problématiques qu'elles pouvaient rencontrer avec les citoyens et les citoyennes. Après, moi, ça m'a fait bifurquer complètement, puisque du coup, moi, mon profil, c'était plutôt d'accompagner sur la partie alimentation dans le domaine agricole. C'était plutôt l'alimentation qui était l'entrée. Et là, du coup, maintenant, c'est plutôt la technique.
Oui, mais au service de l'alimentation. Donc,
oui, bien sûr, c'est toujours au service de l'alimentation. Mais du coup, c'était nouveau pour moi. La partie... moi, je suis pas du tout une technicienne à la base. J'ai un profil plutôt généraliste. Et du coup, l'outillage, c'était une découverte. Quoi, le métal, tout ça c'était une découverte.
Je vois la composante formation et l'engagement politique aussi de cette structure, mais concrètement, ouais. L'atelier paysan, c'est quoi? Si on devait le résumer.
L'atelier paysan, c'est quoi? Alors, on aime bien ne pas commencer par les entrées, justement, formation, recherche et développement, parce que, en fait, c'est tentant hein, d'aller directement vers concrètement, on fait quoi, mais du coup, ça masque le pourquoi on le fait. Et donc, l'atelier paysan, le fond, c'est vraiment d'arriver à développer, à accompagner l'autonomie technique paysanne. Donc, d'essayer de redonner des savoir-faire qui ont été un peu perdus au fil du temps parce que les paysans, aujourd'hui, ils ont d'autres profils, parce que les nouveaux paysans, ils n'ont plus le même profil que les paysans qui s'installaient il y a 50 ans. Ils sont plus forcément fils de paysans. Parfois, elles sont filles de paysannes, ou pas justement pas filles de paysannes, ou filles de paysans qui ne leur a pas transmis les mêmes savoirs. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se jouent, qui font que il y a des savoir-faire un peu indispensables sur une ferme. Alors indispensable, c'est un bien grand mot parce que en fait on peut s'en dispenser, mais qui sont vecteurs d'autonomie au quotidien et qui ont été un peu perdus. L'atelier paysan aujourd'hui c'est composé d'une coopérative qui est l'Astic Atelier Paysan, qui est composée de sociétaires qui sont en grande partie des paysans et des paysannes, et c'est eux qui donnent mandat au directoire pour prendre les chemins que la coopérative prend. Enfin voilà, l'idée c'est que ça réponde toujours aux besoins du monde paysan. Et donc voilà, une coopérative et puis deux associations, Commun Paysan qui gère les communs et Soudon Ferme qui est le réseau des essaims. Et pareil, au sein de ce réseau, aujourd'hui on est 15 essaims, et l'idée c'est que les 15 essaims, ils soient toujours, on garde un œil, et aussi pour les 12 à venir, là dans la saison prochaine, on va accompagner 12 nouveaux essaims. Et à chaque fois, on a une vigilance à ce que ces essaims-là, ils soient bien connectés au monde paysan. Parce que, sans mauvaise pensée, il y a des structures qui peuvent avoir envie de se proposer pour être un essaim de l'atelier paysan, parce qu'ils ont envie de porter ce projet politique et parce que ça leur parle. Mais s'ils sont trop éloignés des fermes, en fait, on perd le but. Donc on a vraiment un point de vigilance à ce que les essaims soient toujours composés de paysans et de paysannes, avec les limites que ça a, parce que la disponibilité de ces profils-là, bah, forcément, elle est moindre. On retombe toujours sur les mêmes qui ont 1000 casquettes et qui ont un emploi du temps à rallonge, parce qu'ils sont confédérés, ils sont dans les différentes instances, etc., mais ils ont envie. C'est un peu naïf de penser que les constructeurs et les équipementiers, ils proposent des outils sortis de nulle part. Mmh. En fait, les paysans, depuis tout temps, ils bricolent, ils adaptent des machines en fonction de leurs besoins. Il y a plein d'outils sur les fermes qui sont auto-construits ou adaptés, bricolés à partir de vieux outils. Et donc, ça, c'est devenu un peu la méthodologie de cœur de l'atelier paysan. On appelle ça les TRIP, les tournées de recensement des innovations paysanne. Et donc, nous, on part toujours de qu'est-ce qui se fait sur les fermes. Donc, aujourd'hui, on parle un peu de viticulture. Donc, typiquement, en viticulture, on va pas se dire « Ah tiens, on ferait bien un nouvel outil sur la viticulture. » On va se dire « Ah, est-ce que dans les domaines viticoles, il y a des paysans qui bricolent? Ils bricolent quoi? Et pour répondre à quels besoins? Par rapport à quelle évolution des pratiques ?» Et donc, on a toute une méthodologie qui est bien cadrée, qui va permettre d'aller faire un recensement très précis de à la fois ce qui se fait, ce qui a été modifié, auto-construit, etc., et puis des besoins. Et ça va donner naissance à des projets de conception participative. Donc nous, à l'atelier paysan, on conçoit aussi des outils En plus, je parlais des formations tout à l'heure, mais donc il y a aussi tout un volet recherche et développement, et donc conception d'outils. Et cette conception, elle est toujours participative, c'est-à-dire qu'on n'a pas 15 personnes en interne qui font de la modélisation, de la mise en plan, des tests, toutes seules, de manière totalement isolée des fermes. On a des équipes qui, une équipe qui travaille à chaque fois avec plusieurs fermes. Donc s'il y a un projet, il y en a eu plusieurs en viticulture qui émanent de fermes qui ont identifié un besoin par rapport à des pratiques, et ben, on a des ingénieurs qui vont travailler avec ces fermes-là dans des processus d'aller-retour permanent. Donc la définition du cahier des charges de l'outil, elle est faite avec les paysans et les paysannes. Derrière, on a les ingénieurs qui vont essayer de faire un premier plan et qui va être confronté avec les paysans et les paysannes, qui vont faire leur retour, etc., jusqu'à co-construire l'outil, donc à travers des chantiers collectifs où du coup les paysans et les paysannes vont construire l'outil qui a été mis en plan. Ensuite, c'est eux qui vont le tester sur leur ferme, et donc au bout de quelques semaines, mois ou années d'utilisation, ils vont faire leur retour, et puis on va faire évoluer l'outil, et nos outils sont jamais finis. En fait, si on va sur le site internet de l'atelier paysan, on va voir V1, V3, V7, parce que en fait, l'outil, il est en réflexion, en évolution permanente, parce que nous, on ne fonctionne qu'avec les retours des usagers. Donc c'est hyper important pour nous que les personnes qui construisent des outils sur la base de plans qu'on a pu co-construire avec des fermes, nous fassent leur retour et nous disent tel truc là, c'est super, ça marche super bien. Par contre, là, sur le binage du rang, franchement, il y a un petit problème, ça s'approche trop pied des ceps de vigne, par exemple, et du coup, il faut qu'on trouve une solution, et donc on va réfléchir pour faire évoluer l'outil, etc.
Ouais, vous itérez sans cesse, en fait.
C'est ça, c'est continu comme process.
C'est intéressant parce qu'en t'écoutant, je retrouve les mêmes termes que ce que je peux utiliser moi en product management quand on crée des logiciels. Vous faites du product management agricole.
Voilà.
Non, mais c'est vraiment, enfin, il y a aucune. Enfin, c'est la même méthodologie et le même déroulé, le même sérieux. Enfin, c'est chouette d'entendre ce niveau de détail parce que c'est vrai que quand je discute parfois de l'atelier paysan, des formations, on pourrait avoir l'impression que c'est une sorte de Fab Lab agricole, mais en fait, c'est bien plus que ça sur la démarche. Enfin, là, tu vois, je ne connaissais pas ce que tu me parlais des trips,
des
voyages. Et s'il y a une méthodo et même la façon dont vous entretenez les plans. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a dans la brochure que tu as là, mais de mémoire, sur le site internet, quand on télécharge les plans, ils sont très, très détaillés. Enfin,
ouais.
C'est du dessin industriel, ultra précis.
Donc on conçoit des outils, mais on ne construit pas d'outils, c'est-à-dire qu'on ne vend pas d'outils. Tous les plans qui sont créés grâce à ces différents projets-là dont je parlais sont mis en ligne sur notre site internet. Et tout ça, c'est totalement libre. En fait, on met ça dans un pot commun.
C'est Creative Commons, c'est ça ?
Voilà, c'est une licence Creative Commons. Et donc, nos outils, nos plans sont faits de telle manière qu'un paysan ou une paysanne qui maîtrise le travail du métal, parce qu'elle s'est formée chez nous ou parce qu'elle maîtrise par ailleurs le travail du métal, peut aller prendre un plan sur notre site internet et construire son outil de manière totalement autonome et libre. Et c'est le but, en fait, c'est que ces outils ils soient... Et puis, idéalement, qu'elle puisse aussi l'adapter, parce qu'en fait, nous, c'est aussi le but de nos formations, c'est qu'en fait... on sache auto-construire un outil, mais qu'on sache aussi le réparer et l'adapter à un besoin qui évolue. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment deux volets, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est très concret pour un paysan ou une paysanne, parce que comme tu le dis, il y a sur les fermes un besoin très pragmatique de faire en sorte que l'outil fonctionne pour tel besoin, pour telle pratique, pour tel itinéraire technique, à tel moment de la saison, etc. Et donc de pouvoir le régler, l'adapter, le modifier soi-même. Et d'un autre côté, nous, ce qu'on propose, c'est aussi une critique du modèle agro-industriel actuel, quoi. Et donc, on essaye vraiment d'avancer sur les deux pieds en même temps, quoi. Le pied très pratico-pratique de qu'est-ce qui est utile à un paysan aujourd'hui sur sa ferme, mais aussi la partie vraiment politique avec d'amener ça aussi. On essaye de l'amener à travers nos formations, à travers nos différents temps d'échange, à travers nos publications, puisque on en parlait tout à l'heure avant de démarrer, on a un bouquin qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, qui est quand même aujourd'hui qui a été pas mal circulé.
Oui, il a été réédité en version poche.
Qui a été réédité en version poche. Reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, où là on est vraiment sur le pied, le volet politique de l'atelier paysan, et on essaye vraiment de décortiquer ce complexe agro-industriel dans lequel on se trouve, et comment en fait on peut proposer des réponses concrètes aux fermes pour aussi ne pas être enfermé dans ce complexe-là. Et notamment, un point qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, mais c'est quand même la partie financière et économique. Aujourd'hui, on a des fermes qui sont endettées à des niveaux jamais vus dans l'histoire agricole et qui ne cessent d'augmenter. Et en fait...
Ça commence dès le début de l'installation. D'ailleurs, on nous dit qu'il faut faire un prêt pour ci, pour ça. Si tu n'as pas un business plan à un demi-million...
C'est ça, avec de toute façon, c'est pour ça qu'on parle de complexe agro-industriel, c'est que les banques et les équipementiers font partie de la chaîne de ce complexe, et le seul perdant dans tout ce complexe, c'est le paysan. Donc du coup, c'est comment on permet aux paysans d'échapper aussi à ce qu'on lui impose, c'est de reprendre l'autonomie sur ce qui se passe sur sa ferme. Cette autonomie, elle peut passer par plein de choses, il y a d'autres structures qui vont travailler sur les semences, par exemple, produire ses propres semences, faire ses propres plans, ça fait partie d'un volet de l'autonomie. La commercialisation, vendre en circuit court, avoir un lien direct avec les personnes qui vont manger tes produits, c'est une autre forme d'autonomie. On essaye de proposer aussi une voie qui va permettre aux paysans d'avoir un peu plus aussi la maîtrise de ses coûts. D'arriver à construire des machines à la taille de leur ferme aussi.
Vient en fait aux formations aujourd'hui. Maintenant, c'est principalement des jeunes, ou est-ce que vous avez des...
Alors,
parfois qui veulent venir partager certaines choses.
On n'a pas d'études précises, et puis en plus, moi je suis pas formatrice moi-même, donc je vois les gens passer, mais de là en tirer une généralité, c'est compliqué.
Vous ne faites pas un questionnaire d'entrée.
C'est des données qu'on a, leur âge, etc. Mais bon, on a plusieurs publics. Et puis, pragmatiquement, le public, il évolue en fonction aussi des possibilités de financement des formations. Le fonds Vivea, qui est donc le fonds de formation des agriculteurs, finançait les porteurs de projets, porteuses de projets. Aujourd'hui, c'est limité seulement à certaines priorités Vivea, et nous, on ne rentre pas dedans, on y travaille, mais on ne rentre pas dans la priorité qui permet d'avoir ce financement ouvert aux porteurs et porteuses de projets. Donc, ce qui est quand même fou, c'est qu'au moment où tu as besoin de te former et du temps pour te former, t'as pas de fonds pour te former. Donc, avant, on avait des porteurs et porteuses de projets. Aujourd'hui, beaucoup moins. Là, je parle de nos formations classiques, les formations courtes. Et puis après, on a des paysans et des paysannes, du coup, qui sont installés, puisque là, ils ont accès à ce fonds de formation. Et au niveau des profils, on peut avoir de tout. On va à la fois avoir des gens pour qui la motivation première, c'est d'apprendre à travailler le métal, pour pouvoir ensuite utiliser ce savoir-faire sur leur ferme. Et puis après, on va avoir des gens qui vont venir spécifiquement pour un outil bien particulier qu'ils ont identifié et qui répond à un besoin sur leur ferme. J'ai beaucoup parlé du travail du métal, mais c'est pas que ça, les formations chez nous. On a aussi le travail du bois, donc notamment apprendre à construire un bâtiment, enfin un hangar ou des bâtiments simples avec une tronçonneuse. Initiation au travail du bois, donc voilà, apprendre les différentes comme je parlais tout à l'heure pour le travail du métal, voilà, les différentes manières d'appréhender le travail du bois. Électricité paysanne, donc ça c'est savoir identifier un problème,
c'est quoi le triphasé,
et solutionner un problème simple sur sa ferme. Et on a aussi la mécanique agricole. Donc ça, en ce moment, c'est une formation qui a le vent en poupe.
Pourquoi ? Particulièrement celle-là ?
Ouais, alors bah, peut-être aussi on en a beaucoup moins que les autres, donc peut-être qu'elles sont plus vite pleines, mais en tout cas, il y a un engouement pour les formations mécaniques agricoles. Mais là, ça va être vraiment apprendre à entretenir et réparer son tracteur. Donc, et on parle de tracteurs, de vieux tracteurs classiques et pas les tracteurs...
Il y a un enjeu d'économie, du coup, quand tu peux le faire toi-même, puis en plus tu peux faire durer ta machine ou remplacer quelques pièces, c'est quand même...
Alors nous, on n'inclut pas dans nos formations les tracteurs, les nouveaux tracteurs pilotés par...
Vous ne faites pas les drones,
petits
robots à chenilles, non.
Non, mais du coup, voilà, mécanique agricole. On a aussi, alors nous, on n'en a pas ici dans l'Ouest, mais on a aussi des formateurs ailleurs en France qui font mécanique agricole pour l'outillage, les outils de temps, voilà, réparer sa tronçonneuse, entretenir sa tronçonneuse, etc. Donc voilà, mécanique agricole. Et puis on a aussi une formation Arduino. Ouais. Donc électronique libre, donc ça va être apprendre à programmer et mettre en œuvre des petits automatismes de type ouverture-fermeture de serre, ouverture-fermeture de poulailler. Voilà, c'est l'Arduino. On propose aussi des formations au logiciel Bringel, Crop, l'ancienne version, nouvelle version. Donc le logiciel pour faire son planning de culture.
Je trouve ça intéressant cette partie-là parce qu'il y a un propos autour de la robotique. Forcément, c'est un peu pas l'ennemi à combattre, mais c'est clairement... Voilà. Et si on veut récupérer des terres, c'est à des machines de ce type-là, en fait. Et pour autant, vous vous coupez pas complètement de cette technologie-là. Je fais la distinction entre technique et technologie, mais... Le fait de voir des formations Arduino et logiciels, ça montre aussi que vous êtes pas, vous vous coupez pas non plus d'outils disponibles. Mais par contre, c'est toujours dans l'optique outils libres, maîtriser, apprendre à programmer un peu la base de l'Arduino pour...
on n'est pas anti-tech. D'ailleurs, on se définit pas comme low-tech. Parce que nous, la finalité, c'est l'autonomie technique paysanne. Aujourd'hui, notre métal, par exemple, c'est pas du métal fait en France. À l'atelier, on a une puissance électrique qui nous permet d'utiliser des outils, des machines. On n'est pas sans électricité. C'est pas notre démarche, en fait. C'est la démarche d'autres. Collectif, il y a des gens qui sont dans cet objectif-là. Nous, notre parti pris, c'est pas celui-là. Nous, on va dénoncer l'escalade technologique, mais on va pas se fermer à utiliser un ordinateur pour faire un tableau Excel, pour programmer son planning de
semis. Vous êtes dans votre époque.
Voilà. Ouais. Il y a des outils qui existent, qui sont bien faits, qui facilitent la vie et qui nous rendent... En fait, celui qui fait une formation Arduino et qui va ensuite maîtriser l'ouverture et la fermeture de sa serre, il est devenu autonome pour ouvrir et fermer sa serre. Et nous, c'est ça l'objectif. Avec les GAB, on a organisé 3 démos d'outils autour du triptyque maraîcher. Donc le triptyque, c'est la buteuse, le cultibute et le vibroplanche. Et en fait ça parle les paysans et paysannes, ils étaient assez nombreux et nombreuses pour venir voir les outils, ça leur permet encore une fois, hein, tout à l'heure on parlait de sortir de sa ferme à travers les formations, là typiquement c'est sortir de sa ferme sur un temps court et pour aller voir la ferme de, de voisins, soit qu'on connaît pas, soit qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc on parle beaucoup technique. Donc bon, bah là, la démo d'outils, à la fois c'est concret, donc ça les intéresse, mais c'est aussi un prétexte pour qu'ils parlent de leur itinéraire technique, de la saison, de comment ça va, quoi, de comment ça va sur la ferme. Et ça, c'est hyper important et on sent qu'il y a un vrai besoin de ces temps-là, quoi.
Ouais, ça vous permet de, bah, du coup, de rester visible sur cet enjeu-là sans forcément bah, être bloqué par les financements des formations. Enfin,
ouais. Ou... Bah oui, nous, c'est sûr que ça nous donne de la visibilité, mais c'est, enfin, l'enjeu, il est aussi de, ouais, de donner de la matière aux paysans pour échanger. Et,
Vous allez en faire bientôt sur la Viti ou il y a des choses prévues avec l'assaut des vignerons bretons?
C'est pas au programme. La filière Viti bretonne, elle est un peu récente. Enfin, en tout cas, dans nos liens, c'est récent aussi. Et pour en faire, il faudrait qu'il y ait des outils... sur le territoire, donc à creuser. Là, on va faire une première formation normalement avec les vitis bretons. Donc peut-être que rapidement, il y en aura qui feront des outils du catalogue et qu'on pourra organiser des démos avec plaisir. Ouais.
Vous entendez les collègues, il faut faire des outils.
Ben, je peux juste conclure en disant de ne pas hésiter à aller sur le site internet de l'Atelier Paysan parce que, parce qu'en fait c'est un site internet très riche. Bon, il y a le programme de formation de la saison là bien sûr qui est dessus, il y a tous les outils, tous les plans qui sont en libre accès et il y a aussi, je le dis parce que c'est important, il y a un forum. Alors les forums et le nôtre n'échappent pas à la règle, ça fait toujours un peu vieillot, c'est compliqué de trouver les infos, mais en fait pour nous c'est garant de cette remontée là de R&D participatif dont je parlais tout à l'heure, où il faut vraiment que les usagers des outils fassent leur retour, ou quelqu'un qui a transformé une machine, il met un post sur le forum, ça intéressera toujours d'autres personnes, il est assez consulté et donc faut pas hésiter pour les paysans et paysannes qui nous écoutent à aller faire un tour sur ce forum et à poster si vous avez bidouillé quelque chose sur votre ferme, même si vous pensez que ça sert qu'à vous. Bah, en fait, non, ça servira toujours à quelqu'un d'autre. Et puis moi, j'ai mes collègues qui jettent toujours aussi un œil et qui peuvent se dire que ça répond à un autre besoin qu'on nous a fait remonter par ailleurs et vont croiser les infos. Et puis demain, peut-être, ce sera un projet de nouveau prototype à l'Atelier Paysan.
Je mettrai le lien dans la description. Merci beaucoup Mathilde.
Merci à toi.
Et voilà pour cette première rencontre de Technoterroir. En écoutant Mathilde, je réalise que la question des machines agricoles dépasse largement le matériau ou les réglages. Être autonome sur l'entretien ou la fabrication de ses propres outils, c'est reprendre la maîtrise de sa production, sortir de l'isolement induit par certains choix technologiques et renforcer les liens avec sa communauté professionnelle. Quand j'ai débuté dans le Muscadet il y a quelques années, j'étais la seule, à ma connaissance du moins, à ne pas avoir de tracteur. C'était pour des raisons très rationnelles, des questions de taille de parcelle, d'investissement. Mais aussi, j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais tenir sans machine. Avec le recul, cette exploration en solo n'était pas très drôle. Et j'aurais bien aimé tester des prototypes avec d'autres voisins et voisines. Bon, maintenant que je démarre un nouveau projet en Bretagne, je sais que des organisations comme l'Atelier Paysan peuvent aider à créer des noyaux locaux de partage, de savoir-faire. C'est une dimension collective qui est un soutien précieux dans des métiers aussi durs que ceux de l'agriculture. Donc j'ai hâte de trouver d'autres vigneronnes et vignerons avec qui fabriquer des outils adaptés au terroir breton. Mais l'outil ne bouge pas tout seul, il lui faut une main et si possible un corps attaché derrière. Alors si j'ai trouvé une piste sur la fabrication et la mutualisation des connaissances autour des outils, je n'ai pas encore exploré à fond la question de l'outil le plus important. Nous, le corps humain. Et pour ça, rendez-vous dans le second épisode. Vous venez d'écouter Technoterroir, un podcast indépendant sur la low-tech dans la vigne et ailleurs. Chaque épisode part à la rencontre de celles et ceux qui bricolent, inventent, détournent pour rendre l'agriculture plus libre et plus vivante. D'ailleurs, ce podcast est libre lui aussi, et sans pub. Alors si vous aimez le son des outils et la sueur des idées, partagez-le ou soutenez-le. Pour les crédits, la musique que vous entendez est l'œuvre de 60 Riot, un artiste nantais dont vous pouvez retrouver les derniers EP sur Instagram ou SoundCloud en tapant 60 R-I-O-T. Le podcast a été enregistré avec un Zoom H5 et les moyens du bord, puis monter avec Audacity. Je remercie Thierry Poinsin, Julia Gugan, Julien Rioux, Dimitri Régnier et Laura Ducier pour leurs encouragements et leurs conseils sur ce premier épisode. Pour continuer la réflexion, je vous invite à lire « Reprendre la terre aux machines », écrit en collectif par l'Atelier Paysan et disponible en format poche, aux éditions Point ou Seuil. Et voilà, à très vite pour la suite.